1972, 1 436 547 enfants sont partis en colo. Il y a plusieurs formes de colonies de vacances, suivant l'âge notamment. Pour les petits, les 4 à 6 ans, les colonies maternelles. Pour les 6 à 14 ans, les colonies de vacances proprement dites. Pour les 13 à 18 ans, les centres de vacances collectives d'adolescents.
Bernard Ménez, vous aviez l'âge des colonies de vacances sur cette photo?
Oui, je vois 12 ans, je devais être au collège Sainte-Croix de Neuilly, et on habitait à Nières. Mais c'est vrai que mon père était au PTT, et depuis plusieurs années, nous passions tous nos étés aux colonies de vacances des PTT. Et ça, c'était à la fois formidable, parce que les parents n'avaient absolument pas les moyens de nous payer des vacances, donc les PTT prenaient ça en charge. Par contre, on restait souvent 2 mois, juillet et août, ce qui était un peu triste. On avait l'impression d'être arraché de sa famille pendant 2 mois.
Et vous vous reconnaissez sur cette photo ?
Bah oui, ce serait difficile autrement. Ça me rappelle quand même aussi quand on venait d'emménager dans un très bel appartement alors qu'on a vécu très longtemps dans une petite maison. Et je prenais mon vélo, j'enfourchais mon vélo à Asnières et je partais tous les matins et revenais tous les soirs en vélo au collège Sainte-Croix de Neuilly.
Et la photo juste en dessous, c'est monsieur et madame Ménez en 1939.
Oui, donc à mon avis, ils étaient jeunes mariés, 39, il n'y avait pas d'enfant encore. En plus, mon père allait partir à la guerre. C'était la maison où on a vécu à peu près jusqu'à l'âge de 10 ans, à la Garenne-Colombes. Petite maison, en bas il y avait une cuisine qui servait à la fois de cuisine et de salle de bain quand deux fois par semaine on pouvait prendre un bain dans une espèce de grand tub et un petit salon dans lequel il y avait un piano droit sur lequel je m'étais jeté à l'âge de 7 ans. Et en haut, 2 chambres dont une était tellement petite que comme on était 4 enfants, il y en a toujours un qui devait foutre le camp chez la grand-mère un peu plus loin pour dormir parce qu'il n'y avait pas la place.
Et les colonies de vacances, vous avez prolongé parce que vous en avez animé beaucoup.
Ça m'a donné envie, probablement à l'âge de 15-16 ans, de devenir moniteur de colonies de vacances et puis directeur d'ailleurs. Pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça tous mes étés. Et j'ai même été le premier directeur de colonies de vacances de la SACEM.
Et vous avez lancé des nouvelles activités comme le camping sauvage.
Entre autres.
C'était quoi ça?
Ben, c'est-à-dire que quand les enfants étaient un peu plus grands, vers 12-13 ans, les colons, on acceptait de partir avec des tentes un petit peu éloignées. Mais ce que je lançais surtout, c'est l'idée qu'on pouvait avoir une mixité à l'intérieur des tentes. Donc, moyennant... ça vous fait
grande
rire.
Idée.
Ça vous fait rire de la part d'un chaud lapin peut-être, mais moyennant une surveillance assez stricte des moniteurs et monitrices, ça posait aucun problème. Et ça, il fallait le savoir.
Attention, please. The French railways have abolished ticket control at the way out. Therefore, you must validate your ticket before departure by using the composter. The stamping machine.
Stamping machine? Non, compris.
Bon, alors écoutez. First, you forget to validate your ticket at the stamping machine. 2. You are in the first class and your ticket is for the second class. 3. You forget to take the supplement for this train, Main Ocean Very Special Train. Your ticket is not valuable.
Valuable? Non compris.
Your ticket is not good.
Good? Good?
Oui. Mais alors là, je crois que c'est pris de ma tête.
Il a le physique d'un homme en vacances. C'est lui qui le dit, Bernard Ménez a joué l'homme qui part, le parisien qui va séduire la plus jolie fille du village, l'homme qui prépare l'été, l'homme sur le départ. Il y a des êtres comme ça qui pour toujours seront les hommes d'un 30 juin ou d'un 1er juillet, qui ont ce désir-là collé à la peau à jamais. Ça vient de loin, Bernard Ménez dit « petit déjà, j'étais les vacances ». Mais attention, ça ne voulait pas dire ne rien faire, au contraire, c'était expérimenter. Dans une famille, il y a toujours celui pour qui on dit « c'est l'original, le rêveur ». Il y a toujours une grand-mère pour repérer cet enfant-là et dire « il est un peu marginal ». Ce sont ces physiques de vacances qui jamais ne vont intégrer la grisaille. Le fils du facteur Ménez, Bernard, est de ceux-là. Il dit « il paraît qu'il suffit que j'apparaisse pour qu'on sourie ». Il ajoute « je ne suis ni beau ni laid, ça limite et ça élargit les possibilités ». Chez les Ménez, on n'a pas de télé, mais on a le droit d'aller toquer chez les voisins. Quand Bernard, enfant, voit Jacques Brel chantant la valse à mille temps avec ses bras, avec ses gestes, il est ému. Son premier rôle, c'est le roi mage Balthazar dans la crèche vivante de l'école. Ensuite, il anime des colos. Pendant les récréations à l'école, il met en scène ses amis. À la caserne à l'armée, il met en scène les appelés. Il part enseigner les maths et la physique-chimie, l'avion va décoller pour le Canada, mais il est rattrapé au vol par un réalisateur, Jacques Rosier. Puis ce seront les films de Pascal Thomas, la rencontre avec Louis de Funès ou François Truffaut. Bernard Ménez reste en France, l'été et la vie d'acteur commencent à s'étendre à toute la vie. En 1984, son 45 tours, Jolie Poupée, est passé devant Thriller de Michael Jackson au Hit Parade. Souvent dans le cinéma, on lui reproche les succès du théâtre Michel et de la chanson populaire. Les êtres avec physique d'homme en vacances et lumière de 30 juin, ça fait des jaloux. Bernard Ménez aime raconter la scène du film de Jacques Rosier, Maine Océan, la dernière, ce contrôleur des trains qui veut changer de vie. Bernard Ménez, c'est l'homme qui a changé de métier 1000 fois. Il a le physique d'un homme en vacances, c'est-à-dire d'un homme disponible à rêver et à changer, lui qui a aussi eu envie de faire bouger les lignes en politique. Bernard Ménez donne envie de repenser nos physiques d'hommes et de femmes pressés, nos physiques de l'année, nos physiques de septembre, pour en faire des physiques de juillet.
Je ne suis ni grand ni petit. Dans la vie, j'ai raisonnablement atteint le 1,75 m. Lorsque je me déplace, paraît-il que je sautille légèrement, comme s'il y avait des ressorts dans mes chaussures, et en quelques enjambées, je fais le tour d'une pièce. J'ai une dégaine, comme on dit. Georges Volinsky, un jour, l'a croqué, accoudé à un comptoir. Dans une immense bulle, je me mets à râler sur pas mal de choses. Les gens qui s'écrasent ou qui ne tiennent pas leurs promesses, les auteurs qui se prennent pour des génies, le ministre des Finances pour qui tout contribuable est un fraudeur qui s'ignore, sauf lui bien sûr, les magouilles, les injustices, les taxes, etc. Parce qu'à dire vrai, franchement, il y a de quoi protester et se révolter. Volinsky finit par me faire râler sur le rôle que je n'ai jamais joué. Celui que Jean-Paul Belmondo a tenu au théâtre et Gérard Depardieu au cinéma, Cyrano de Bergerac. Et donc, j'aurais pu jouer, moi, à la télévision, si seulement les producteurs y avaient songé. Oh, Cyrano de Bergerac, nous y voilà. J'ai une tête tout en longueur, un menton et un nez, un peu comme tout le monde, sauf que chez moi, c'est manifestement plus affirmé. Un journaliste du Monde a dit de mon nez qu'il était à piquer des gaufrettes. Ce nez a été l'obsession de mon enfance et de mon adolescence. On s'en moquait, on le décriait, il faisait rire à lui tout seul, ça m'embêtait et me chagrinait, je voulais participer, je suis devenu acteur en quelque sorte pour l'accompagner.
C'était la voix de Bernard Ménez, né un 8 août 44, et c'est un extrait de l'autobiographie Bernard Ménez, et encore, je ne vous dis pas tout, aux éditions L'Archipel, où il nous dit quand même pas mal de choses. Il y aura en studio sa fille, Elisa Menez, comédienne. Il y aura Guillaume Braque, réalisateur qui lui a offert un rôle face à Vincent McCain dans le film Tonnerre en 2013. Et il y aura son ami et complice, le cinéaste Pascal Thomas. À la musique, ce sera Chapelier Fou.
J'ai eu un grand professeur qui était ma mère.
Ah bon ?
À son insu. Et ma mère, je crois que... comme rival, elle pouvait avoir Rému et puis c'est tout.
Ah bon ?
Ah oui, c'est tout.
Et pourquoi elle racontait des histoires ?
Non, c'était une Espagnole très volubile qui prenait des colères fantastiques, suivie d'un seul coup, elle est entrecoupée d'un rire, parce qu'il y avait quelque chose, moi je la faisais rire au milieu d'une colère, par exemple, avec la tête de rire. Elle avait le sens de l'humour et elle était... C'était une comédienne.
Comédienne de la vie quotidienne.
Ah voilà.
C'était le Rému de la vie quotidienne.
Ah oui, oui, oui.
Et c'est, vous l'avez observé.
Je crois que c'est toujours ma mère que j'interprète, tous ces gens qui se font servir. Ma mère adorait se faire servir comme ça. Elle serait faite trimballer comme...
comme vous, par vos
rires. Exactement. Et... elle méprisait beaucoup, mais sachant qu'elle était, que c'était très mal. Elle méprisait des petites gens. Mmh. Elle méprisait des petits métiers.
Ce qui est très courant dans le...
Ah, mais c'était un mépris total, un mépris total. Et alors, moi, j'ai pris ça pour tous ces petits... ces espèces de petits adjudants. J'aime bien jouer ces petits... j'aime avoir des galons, mais avec des chefs au-dessus, et puis des subalternes qui dérouillent, qui prennent beaucoup, là.
Pour être plein d'humilité envers celui
du... Je voudrais faire un grand film comme ça, avec la veulerie, enfin tout, mais un bel éventail de ce que je suis capable... enfin, de ce qu'on est capable de faire, quoi. Mais gentiment.
Oui, gentiment, parce que de toute façon, vous n'aimez pas être méchant.
Ah, pas du genre de ça.
Bernard Ménez, est-ce que comme Louis de Funès, vous vous êtes servi de la vie quotidienne et de certains membres de votre famille comme professeur de théâtre à leur insu ?
Non, non. Moi, mes parents et mes trois frères, nous n'avions rien à faire dans le milieu artistique du théâtre. Je crois qu'en fait... sauf que ma mère était violoniste amateur dans son jeune temps et mon père était dans la fanfare de Saint-Paul-de-Léon et jouait du piston. Bon, ils étaient un peu musiciens sur les bords. Mais,
c'est
très ménesse. Et puis il y avait la chorale de la Garenne Colombe.
Et c'est vrai qu'ils ont appartenu tous les deux à la chorale de la Garenne Colombe à la paroisse et que c'est comme ça qu'ils se sont connus, qu'ils se sont mariés et qu'ils ont fait des enfants. Voilà. Mais
donc la musique et le chant sont là depuis longtemps. La musique et le chant sont
oui,
là.
C'est vrai. Mais je suis peut-être quand même le seul à en avoir un peu hérité, dans la mesure où il y avait un petit piano droit dans toute la petite pièce d'en bas, le salon, et j'étais le seul à jeter un peu dessus tout seul. Alors j'apprenais, je me rappelle très bien, mon premier morceau, c'était les cloches du Corneville. Et comme je l'avais appris à peu près suivant la partition, chaque fois que mes parents recevaient des amis, « Ah, le petit Bernard va vous faire un concert !» Et c'était à chaque fois la même chose. Alors, un jour, il fallait s'en sortir, et j'ai commencé à prendre des cours. Voilà.
Est-ce que c'est à cette époque aussi qu'on tendait un drap à la maison pour projeter des films muets ?
Je vois que vous êtes au courant de tout. Oui, oui, mon père, c'est vrai, était très, comment j'allais dire, était très en avance sur son temps. Par exemple, à Saint-Paul-de-Léon, c'est lui qui avait la première mobylette. Bon, il avait une petite caméra et qu'on tournait à la main pour passer des films muets. Il avait acheté des bobines, je sais pas d'où elles sortaient, et on tendait un drap dans le salon. Et de temps en temps, on avait le droit de notre petite séance cinématographique, gratuite, bien sûr.
Qui voyait quoi ?
Ça ressemblait un peu à des Laurel et Hardy, mais ou des films muets de cette époque-là, mais avec des gens qu'on connaissait pas. Et puis en plus, moi, j'y connaissais rien du tout en acteur à l'époque. Mon père non plus, d'ailleurs. Donc je crois qu'il récoltait des petits films comme ça, à droite, à gauche.
Et comme il n'y avait pas de télé, c'était plutôt la radio.
Nous, on était radio, je dirais même qu'à la Garenne-Colombes, jusqu'à 10 ans, il n'y avait pratiquement même pas de radio. C'est après, quand on a intégré à Nier à l'appartement, mais on n'avait que la radio, avec une émission phare de l'époque qui était « Vous êtes formidable » de Pierre Belmar. Ça, c'était une émission...
Zappi Max, t'avais
hein Zappi Max, oui. Ouais. Comment ça s'appelait le...
La bise à Zappi.
Non, mais il y avait un feuilleton. Signé Furax.
Furax, oui,
voilà,
c'est
signé Furax,
chose,
voilà, un gros feuilleton.
Francis Blanche.
Ouais, Francis Blanche. Et tout. Les voisins du dessous, qui étaient plus riches, avaient une télé. Et comme on s'entendait quand même bien entre nous, à chaque fois qu'il y avait une émission peut-être intéressante, ils nous le disaient. Ils nous disaient, si vous voulez, vous pouvez descendre. Et c'est là que j'ai découvert, en effet, Jacques Brel, La valse à mille temps, et après, je crois, la fameuse « Ne me quitte pas ». Voilà.
Et c'était pas, j'imagine, forcément partagé de jouer au théâtre à l'école. Enfin, le fait que déjà dans la cour de récréation, vous ayez envie de mettre en scène vos camarades, c'était non. Particulier.
Oui, oui, ça c'était assez bizarre. Je me souviens que, là, je devais être la sixième, cinquième, quatrième. Moi, à l'école, ce qui m'intéressait en français, c'était en effet les extraits de théâtre. Vous savez, je crois que c'est les Lagardes et Michard qui s'appelaient. Il y avait les poésies, il y avait les essais, et puis il y avait les extraits des Molière et tout. Ou même Courteline, etc., des trucs plus récents. Et c'est vrai que ça m'amusait de demander à des camarades de me donner la réplique.
C'est drôle, j'ai regardé votre robe depuis un moment. Henri, je disais, tiens, j'ai déjà vu cette robe. Maintenant, je cherchais où j'avais vu cette robe. Maintenant, je sais, maman a exactement vous avez exactement la même robe que ma mère. Maman a exactement, je le dis, c'est la même robe que la vôtre. C'est rigolo, ça. Elle la met pas parce que, peur d'être ridicule, mais c'est la même, si. C'est un hasard, c'est un hasard. Vous l'avez mis juste pour venir ici, vous le... Oui. Oui, parce que dans la rue, quand même, faut pas... Ben, voyez, madame, la vôtre est plus sobre. La vôtre est plus sobre, elle est plus stricte, elle est plus sobre. Plus stricte. Elle n'est pas plus propre, mais elle est plus sobre. Vous l'avez fait vous-même, vous ne... C'est normal, faut pas laisser perdre les vieux bouts de rideau. Voyez, madame, elle a eu raison.
Robert Lamoureux, c'est une des voix qui vous intéresse vers 14-15 ans, Bernard Ménez.
Beaucoup de choses, oui. J'ai appris, j'étais fasciné par... C'était un génie, hein. C'était un génie absolu, parce que non seulement il disait des textes assez drôles, mais d'une manière formidable. Je suis nationalité française, et bien qu'étant né à Paris, maman, je prends de la... Papa, etc. Et c'est vrai que j'ai appris par cœur des sketchs de lui, Papa, Maman, la Bonne et moi, La chasse au canard, etc. Et que je les jouais devant des jeunes de l'avant-garde Saint-Lucien à l'époque où j'étais aide-moniteur. Voilà. Et ça a été un souvenir formidable pour moi. Et ce qui était extraordinaire, c'est que quelques années plus tard, enfin bien des années plus tard, je me retrouve le producteur de un producteur Jacques-Henri Marin va faire un film avec de Robert Lamoureux par Robert Lamoureux, Opération Lady Marlène, et il me dit avec Michel Serrault. Alors, première chose, Michel Serrault ne me connaît pas, demande à me connaître à travers un film, et c'est là qu'on lui projette en privé Pleure pas la bouche pleine de Pascal Thomas qui est à côté de moi. Suite à la projection, il dit « Ah oui, je veux bien faire le film avec lui ». Bon, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, le producteur me dit « Allez voir Robert Lamoureux, parce que il faudrait quand même finir de le convaincre ». Je vais chez lui, il habitait à côté de Roland-Garros, une maison à part. Je vais chez lui, en sachant qu'a priori, ça se faisait. Mais, et je me dis « Il va peut-être me faire passer des essais et tout ». Et contrairement à tout ce que je pouvais attendre, il s'est mis à me lire le scénario lui-même, en faisant tous les rôles, et pour me dire à la fin, ça va, ça vous plaît?
C'est extraordinaire.
Alors là, à cette époque, vous êtes fasciné par à la fois les extraits de théâtre, ces voix-là, ouais. Et puis en même temps, vous rêvez sur votre lit à des équations mathématiques.
Bah, j'étais bon en maths, c'était de famille, ça, et maths-sup, et c'est vrai que j'ai continué mes études. J'ai continué mes études comme pour... Alors mon père, il rêvait que je rentre dans les PTT, hein, c'était normal, dans un cadre. Moi, j'ai fait des études pour être enseignant, pour être prof. Et j'avais été reçu, en effet, à l'école normale supérieure de l'enseignement technique. C'est une petite normale sup. Et quand j'ai reçu les papiers et que j'ai vu que je m'engageais pour l'État pour 10 ans, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, j'ai résilié mon sursis, je suis parti faire mon service et voilà.
Et ça, c'est assez impressionnant. J'aime bien l'histoire quand vous arrivez au service militaire.
Oui.
Vous vous retrouvez sous-officier et ensuite vous avez...
Non, pas encore. Avait 4 mois de classe où on était un peu bloqué. J'étais ce qu'on appelle EOR, élève officier de réserve. Et je vois dans la grande... c'était à Angers, la caserne Desjardins, je vois une grande salle, 500, 600 places, qui ne sert à rien, qui est une salle de spectacle. Et je me paye le culot d'aller voir le commandant en disant, moi j'aimerais bien, on est obligé de rester là pendant 4 mois, j'aimerais bien essayer de faire un spectacle. Et je croyais qu'il allait m'envoyer promener, et pas du tout, il me dit, bah écoutez, prenez ça en main. Et avec d'autres appelés, et comme c'était des gens qui venaient des grandes écoles, en général c'est des gens qui avaient des talents divers, on a fait des décors, on a fait de la musique, on a fait un spectacle. Et ce qui était formidable, c'est d'avoir terminé le spectacle par la chanson des frères Jacques, Général à vendre, devant un parterre d'officiers. C'était très agréable.
Il y a aussi les journées ensuite où vous êtes responsable d'une vingtaine d'hommes.
Oui.
Et vous devez aller faire des exercices militaires toute la journée et vous leur proposer d'autres
activités.
Disons
que j'étais pas très militariste, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, à la fin des 4 mois... On m'a dit, bon, vous n'avez pas trop l'état d'esprit d'être officier. J'ai dit, non, pas du tout. On va vous garder pour s'occuper de la culture à la caserne. Je dis, non, ça, c'est pas possible parce que j'ai bien vu que c'était très difficile. Et j'ai dit, moi, je me fais muter à Versailles. Et on avait le droit de demander. Et le commandant est furieux, m'a dit, on va vous envoyer à Metz. Là, c'est de la discipline et vous allez en baver. Bon, il n'a pas réussi. Je me suis retrouvé à Versailles. Et là, comme j'ai été sergent très vite, sous-officier, on m'a mis un peloton sous mes ordres. Alors, mon idée, c'était de les mettre en vacances, quoi. Hein. Alors, je les avais un peu briefés. On sortait de la caserne en chantant, au pas, en chantant sur la route de Louviers, etc., etc. Alors, les officiers étaient ravis. Ils disaient, oh, putain, il est bon, celui-là. Et après avoir fait 3-4 kilomètres, on se planquait et je disais bon ben tout le monde descend, on pose le fusil, on bulle et puis on revient dans 4-5 heures en faisant semblant que on a fait de l'exercice, qu'on s'est bien entraîné quoi. Et ça leur plaisait bien sûr.
Comment vous décririez Pascal Thomas, Guillaume Braque, la dégaine de ou l'allure ou le physique de Bernard Ménès, parce que le livre ça commence sur ça, vous décrivez, et vous parlez de votre côté lunaire, ou peut-être un peu...
Je crois qu'on me l'a rappelé, c'était vrai, donc maintenant c'est eux qui peuvent parler, je ne sais pas.
Pascal Thomas.
C'est que, quand je cherchais un acteur pour le rôle de Pleure pas la bouche pleine, au départ ce n'était pas un Parisien, c'était un fils de dentiste d'une ville de province. Mais donc je cherchais un beau garçon, etc. Et puis je me suis dit que les scènes étant assez délicate avec cette jeune fille qui voulait séduire. Elle devenait pénible quand j'imaginais un beau garçon avec cette jeune fille un peu pas naïve ni innocente, mais bon, dans ses débuts. Et quand Bernard était accompagné Jacques Rosier, je voyais qu'à chaque fois qu'il rentrait quelque part, il a un physique poliéresque, c'est-à-dire il rentre sur scène, on rit. Il apparaît dans une pièce, on rit. Non pas méchamment, mais parce qu'il dégage une drôlerie constante.
Guillaume Braque, je crois que vous parliez d'une densité tchékovienne et d'une mélancolie aussi pour Bernard Ménès.
C'est vrai que je pense, Bernard, je ne sais pas si tu as déjà joué du Tchekhov.
C'est
je...
une des premières pièces que j'ai jouées, c'est l'ours de Tchekhov. Ah,
ouais. C'est vrai que bon, on connaît l'amuseur, mais il y a aussi, je trouve, quelque chose d'assez profondément mélancolique chez Bernard qui, moi, me touche beaucoup. Même si la première fois... Alors, bien sûr, j'ai d'abord vu Bernard dans les films, mais là, je me souviens très très bien de la première fois où j'ai vu Bernard dans la vraie vie. Et il avait fait une entrée tonitruante dans la brasserie L'Univers de Clermont-Ferrand pendant le festival du court-métrage, où moi j'étais un tout jeune réalisateur de court-métrage. Bernard était déjà mon idole, et je l'ai vu rentrer comme ça dans le restaurant, interpeller les serveuses, saluer tout le monde, etc. Tout le monde se retournait sur son passage, et il semblait chez lui. Enfin, il y avait une sorte de... Oui, de sympathie, de familiarité immédiate, et c'était très bon. Et il était très généreux aussi.
Vous savez, Léoto, qui aimait surtout parler de comédie, etc., disait mais qu'il ne comprenait pas les auteurs de tragédie. Il dit, je ne comprends pas, puisque dans la comédie, il y a la tragédie, et c'est exactement ce que vous dites. Chez Bernard Ménez, plus la drôlerie est là, plus la mélancolie surgit, et c'est constant. Donc, c'est sa richesse, je pense.
Dans le film Tonnerre de Guillaume Braque, je pense que c'est très très fortement appuyé, cette partie-là.
D'ailleurs, parce que, comme le souligne Richard Millet dans son bon livre, c'est que Ménez a d'abord été un acteur solaire, toujours un acteur de l'été, des vacances, etc. Et chez Tonnerre, c'est l'hiver qui surgit, et il s'y accorde aussi parfaitement. Donc c'est un homme de toutes les saisons, comme dirait un auteur encore plus célèbre.
Et quatre saisons. Les
toutes les saisons.
Non, mais ce qui est bizarre, c'est que vous parliez là de Pleure pas la bouche pleine, et notamment du fait que ça aurait été assez sordide si ça avait été un acteur, une sorte de bellâtre.
C'était épouvantable si ça n'avait pas quelqu'un qui avait la fantaisie. Oui.
Parce que je me souviens de cette scène complètement incroyable qui m'a beaucoup marqué, où Bernard fait sa petite toilette intime avant d'aller dépuceler une jeune fille innocente sur. Et c'est une scène qui aurait pu être totalement.
Il ignore qu'elle est vierge. Elle ne lui a pas dit.
C'est vrai que se laver le zizi derrière un paravent.
Bernard.
Non, mais c'était ça la scène.
Oui, c'est ça, on peut le dire.
Et moi, il y avait la seule chose qui me gênait, c'est l'ingénieur du son qui voulait être très proche et qui voyait tout avec sa perche, Pierre Lenoir. Mais par contre, le reste me gênait pas du tout. D'ailleurs, je me lavais vraiment pour être sûr.
Mais avec Bernard, il y avait quand même une candeur, une innocence dans cette scène qui aurait été sordide avec, je pense, n'importe quel
autre acteur. On ne voyait que le visage de Bernard et celui de la jeune fille.
Oui,
bien sûr.
Alors, on va pas écouter le derrière du paravent, mais une autre scène du film.
C'est vous qui avez envoyé ça?
Oui.
Vous savez que vous avez un sacré culot, hein?
Ouais.
Enfin, bonjour, mademoiselle.
Bonjour.
Vous venez avec nous?
Non, je peux pas.
Pourquoi?
Je suis pas habillée.
Hein? Et comment vous êtes montée là-haut?
Je suis grimpée sur un tas de bois.
Ah. Et vous êtes en quelle tenue?
Petite culotte.
Quelle couleur? Blanche?
Ouais.
Petit bateau?
Ouais.
J'aime que ça, bougez pas, j'arrive.
Non!
Vous allez venir avec nous, écoutez, il y a de la place pour toi.
Non.
Je vous dis que si.
Non.
Vous voulez pas?
Non.
Ah, bon. Bah écoutez, je vais vous aider à descendre au moins.
Non.
Vous voulez pas non plus?
Non.
Bah vous voulez rien. Bon.
Vous allez vous retourner parce que je vais descendre toute seule et pas avec vous.
Bah faites attention parce que c'est dangereux ces machins-là.
Ah bah je suis bien montée alors.
Bon.
Ne retournez pas,
hein. Non, je regarde pas.
Alors tu viens, Alexandre?
Vous voyez, me retourner.
Ah non, c'est ma tête, mais pas les yeux. Bon. Vous venez?
Non.
Bah écoutez, moi je...
Moi aussi, je vous raccompagne jusqu'à la porte.
Ah bon, c'est gentil. Pas sûr, hein.
Hai la casa col tetto dipinto di blu e un giardino fiorito, che cosa vuoi più? Il mattino ti sveglia col gallo e il caffè ed il giorno a vivere con te, non cruciarti se hai tu al
Il y a quelques mots, Pascal Thomas, qui sont de Bernard Ménez.
Oui,
dans la scène.
C'est ma tête, pas les yeux. Bernard est arrivé en voiture, la jeune fille est au-dessus d'un mur, elle descendra d'un tas de bois. Donc, c'est ma tête, pas les yeux, c'est ce qui est venu spontanément à Bernard dans cette scène. Mais c'est du pur Ménez. Hein, c'est un joyau de pur Ménez.
Mais il y avait quand même un scénario très, très précis.
Ouais, non.
Moi, je pense que... C'est là où Pascal est très fort, c'est que la façon de le filmer renforçait complètement la situation, nos personnages et tout.
C'est un film qui s'est tourné chez moi, dans le Poitou. Et je dois dire que on déjeunait chez les cousins, etc. Alors vous savez, il y a quatre entrées, etc. J'ai jamais vu des tournages avec un temps de déjeuner aussi long. Et tout le monde était bourré. Donc les scènes sont pratiquement alcoolisées devant et derrière la caméra pratiquement tout le temps. Donc
pas moi.
Toi, pour
non, non,
autres,
Carmel, c'est qu'elle dit, mais pas moi.
Oui,
non,
non, rouge de vinasse.
Bon, le curé aussi.
Un curé.
Ah, oh là.
Le Chapelier fou est lorrain. S'il a commencé par des études de violon au conservatoire, il les a quittées pour la composition et un laboratoire, une chambre de 12 mètres carrés à peu près, où il a pendant longtemps composé. Un morceau de Chapelier fou, c'est vaste comme la vie, comme l'été, comme les grandes vacances. C'est immense et à l'intérieur, il y a tous les détails, il y a tous les souvenirs. On entend chaque chose. Il a réuni ses dernières années, ses trois derniers EP dans un album et le premier morceau sera « Darling, Darling, Darling ».
Je suis Chapelier fou, vous êtes sur France Culture.
C'est superbe. Donc là, c'est un extrait de la Ballade des pendus. Hein, c'est moins gai. Poème de François Villon. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez pas vos cœurs durcis à notre égard, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez attachés ici, 5, 6. Quant à notre chair que nous avons trop nourrie, elle est depuis longtemps dévorée, pourrie. Et nous, les os, devenons cendre et poussière. De notre malheur, que personne ne se moque, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Ça nous replonge en 1956, devant 600 personnes.
Ouais,
Bernard
8 ans.
Menez.
C'est la première fois, je pense, que j'ai joué sur une scène de théâtre. C'était à la fin de l'année, à la fin de l'année scolaire. Non, 12 ans, oui. Donc c'était au Collège Sainte-Croix de Neuilly. C'était à la salle Saint-Pierre de Neuilly. Les 600 personnes, c'était les parents d'élèves, tous les parents d'élèves de. Et je m'étais mis volontaire pour dire cette Ballade des pendus. Et c'est mon plus grand trou que j'ai jamais eu. C'est-à-dire qu'au bout de quelques lignes, la présence de mes parents, peut-être, de mes frères et sœurs, de pas sœurs, j'en ai pas, je suis une bêtise, de mes frères, fait que j'ai eu un trou magistral. Je ne savais plus ce que je devais dire. Ça a pour moi duré une éternité. Je ne sais même pas comment c'est revenu. Et c'est un truc que vous. Totalement inoubliable. J'ai eu d'autres trous plus tard. Ma fille a assisté assez récemment, il y a 2-3 ans, à un trou que j'ai eu à la première d'un spectacle.
Quand vous jouiez ensemble ?
Non, là, je jouais tout seul et ça venait pas. Je suis carrément parti dans les coulisses chercher mon texte, je suis revenu avec. Mais là, je m'en souviendrai toute ma vie, jusqu'à ma mort. C'était abyssal.
Parce que vous parlez beaucoup de votre mémoire, justement, qui parfois vous fait défaut.
J'ai une très mauvaise mémoire, je l'ai toujours eue. C'est-à-dire que les matières à l'école où il fallait de la mémoire, comme l'histoire, comme la chimie, choses comme ça, les sciences naturelles, ça, j'étais très mauvais. Les maths, c'est pour ça que j'étais bon en maths, en physique. Et c'est vrai que pour le théâtre, chaque fois que j'apprends un rôle, c'est un travail monumental, des heures et des heures.
Mais est-ce que ça permet pas au cinéma peut-être de glisser aussi de l'invention ou de l'improvisation, ben, comme en parlait Pascal Thomas tout à l'heure?
Plus Bernard répétait, moins plus il s'éloignait du personnage. Donc ce que je faisais, c'est qu'au dernier moment, on mettait en place, on répétait, on faisait une prise, deux prises. Et à ce moment-là, je changeais tout. Les places, le texte. Ça, il devenait fou. Il dit non, j'avais rien, mais on ne peut pas, je ne peux plus. Et alors là, la drôlerie ressurgissait, pleine, riche, inventive. Il y a un art de s'accrocher aux branches et de faire rire avec ça, comme personne. Donc, c'est les films que j'ai fait avec lui. J'ai toujours contrarié ces répétitions. Je ne sais pas si vous avez fait la même chose.
Guillaume Braque.
Non, mais par contre, tu as été servi sur mon tournage, parce qu'on avait aussi tendance un peu à mettre en place quelque chose, et puis en fait à avoir un doute au dernier moment, et à tout changer. Et souvent, ça te
perturbait.
Ça te perturbait, et à la fois, tu me disais aussi, et ça m'a marqué, tu m'as dit, ce que j'ai fait de mieux dans ma vie au cinéma, c'était quand je comprenais plus ce qui se passait, voilà. Et avec Pascal Thomas, Jacques Rosier, Yann Lekelec.
C'est l'école de Jacques Rosier, ça. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon tout premier film, d'abord, je pensais jamais faire de cinéma, et quand j' ai fait mon tout premier film, j'ai été en me demandant ce que je faisais là, et je faisais confiance.
On se le demande aussi.
Oui. Je faisais confiance à Jacques Rosier, et puis voilà, et puis je me suis aperçu qu'en effet, il ne fallait pas chercher trop à savoir ce que voulait exactement le réalisateur.
Bon, attention, on va pouvoir y aller. Alexandre, vous êtes prêt?
Oui.
Julie? Bon, moteur!
Pamela, 24 première.
Allons-y, Alexandre. Envoyez le chat.
Allez, là.
Non, non, c'est foutu, c'est de votre faute, Yorick, avec votre perche à la con, vous lui faites peur à ce chat. On n'a pas besoin du son pour ce plan, on fera un son seul.
Oui, c'est ça, on ira le faire une latte.
Bon, alors attention, on est prêt, moteur.
Pamela, 24 deuxième.
Allons-y, Bernard, envoyez le chat.
Bernard, fais-le venir, enfin.
Ah.
Oh, belle. On coupe, bon, hein, on coupe. Hein.
Cut, on va refaire.
Tu vas y aller, à un prochain coup, sinon je vais voir.
Allons-y, Walter, sur le chat. Voilà, Bernard, le chat.
Avance.
Ah. Oh merde, qu'est-ce qui se passe là?
Je comprends pas, il devrait y aller, il a pas bouffé depuis 3 jours, écoute.
24 huitième.
Allez, balancez-le carrément.
Coupé, coupé, oui. Bon, bah écoutez, c'est très simple, on arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un chat qui sait jouer.
Écoute Bernard, je t'avais dit de prendre 2 chats, c'était plus sûr.
C'était la nuit américaine et cette fameuse scène où le petit chat ne veut pas aller boire le lait. Mais ça, c'est un ratage très écrit, j'imagine.
Alors, moi, je ne l'avais pas vu comme ça quand je l'ai joué. J'ai l'impression que, dans 2-3 scènes comme ça, dans la nuit américaine, je pense qu'en effet, finalement, avec le recul, il avait prévu plus ou moins la chose. Surtout que, ce chat ne faisait pas vraiment ce qu'il voulait, mais. Moi, il me racontait que c'était une référence au laitier dans Drôle de Drame, je crois, avec Jean-Pierre Aumont. Alors, pour moi, je pensais qu'à ça. Et en fait, après, ils ont été chercher un autre chat. Alors là, c'était terrible parce que je pouvais pas le tenir en main. Il m'agressait comme un malade et Nathalie Baye pouvait le tenir. Alors, oui, ça, peut-être qu'en effet, il l'avait écrit prévu et me culpabilisait peut-être aussi.
Elisa Ménez, vous avez grandi comment avec tous ces personnages?
Il les a jamais vraiment ramenés à la maison, puisqu'il était un peu tous ces personnages-là. Donc moi, j'ai jamais...
Est-ce que vous pouvez décrire le faire-part de mariage, Elisa Ménez, de vos parents?
Le décrire
alors, rapidement, pour les auditeurs.
Ouais, alors, c'est un dessin de Cabu, déjà. Une pensée très forte. Mon père est assis sur une chaise où il y a marqué son nom.
Comme une chaise de cinéma. De
voilà,
tournage.
Comme quand on attend entre deux scènes. Et il y a marqué Bernard Ménez et Madame, point d'exclamation. Il se retourne, il a l'air un petit peu fâché d'ailleurs. C'est la première fois que je me dis ça. Et il a sur ses genoux ma mère.
J'étais très proche de tous les Charlie, l'équipe de Charlie Hebdo, Cabu, Rezer, Professeur Choron, Volansky, etc. C'était une grande époque pour moi.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. Sans définir leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour, sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été. Une fille qui fredonnait.
Ça vous a apporté quoi de chanter, Bernard Ménez?
Ah ben, je sais bien, je suis bien au courant que je n'ai pas la voix de Luis Mariano, mais j'ai une voix ordinaire. D'ailleurs, j'en veux à Pascal dans un film où il n'a pas voulu que je chante. Il a voulu que ce soit Jacques Pils et... Non, Tabet.
Tabet,
Georges,
oui.
Tabet qui chante à ma place. Mais la chanson, si vous voulez, la musique, moi, pour moi, c'est ça, c'est la musique qui est viscérale chez moi. Alors après, je suis pas un génie, je suis un pianiste d'improvisation gentillet, je suis pas un grand pianiste. J'ai fait beaucoup de spectacles musicaux. J'ai quand même chanté par deux fois de Lopez dans des rôles. Premier rôle, j'ai même chanté la Belle de Cadix à Mogador en direct sans micro avec José Todaro, le ténor de l'Opéra de Paris. Et j'ai chanté de l'Offenbach, les rôles de la Belle Hélène, la vie parisienne et tout ça. Voilà, moi c'est ça.
Tu faisais quoi dans La Belle de Cadix ?
Je faisais le rôle de Manillon. C'est le rôle qu'avait créé Bourvil. Ah oui.
Ouais. Guillaume Braque, est-ce que vous pouvez lire les paroles que vous avez derrière votre 45 tours, plus le début ? Est-ce que vous faisiez ça avant l'émission ?
Mais alors, je prends au début ou je prends un petit paragraphe comme
vous
ça ?
Vous choisissez.
Ouais, t'inquiète pas, de tout, c'est du violon.
Oui, le refrain, on connaît.
Oui, on refrain, ouais.
Verlaine.
Faut pas me laisser dans cet état-là. Je fais des bêtises dès que tu n'es pas là. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand je pense à toi. Toi, tu ne penses qu'à mon petit doigt. Oh, 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 jolie poupée.
Sur mon doigt poupée. On s'inquiète pour les enfants, à l'école.
Et Bernard Ménez, de dépasser tout à coup Michael Jackson au Hit Parade, ça doit quand même être un moment singulier dans une vie.
C'est inattendu, c'est clair. Mais c'est pas ça, c'est que cette chanson était un coup de cœur. Et ça, je le dis jamais assez, parce que beaucoup de gens dans le métier ont cru que c'était vraiment un coup commercial. En fait, j'avais fait 6-7 ans plus tôt, un disque sur la demande de la Maison Polydor dans la campagne anti-tabac de Madame Veil. Et Jacques Lanzmann m'avait écrit des paroles qui étaient « J'aime pas les filles qui fument ». Et 45 tours qui avaient fait moitié vide, moitié plein. Et je m'étais promis de ne pas en faire un autre. On m'en propose tout le temps, jusqu'au jour où Marc Fabien, qui m'en proposait tout le temps, me fredonne Jolie Poupée au téléphone, et je dis, au bout de 600 ans, je dis, ah, celle-là, pourquoi pas ? Et il était tellement étonné qu'il rappelle ma femme dans mon dos pour savoir si j'étais dans mon état normal. Et elle lui dit, bah, si tu l'as dit, c'est que c'est vrai.
On a commencé dans l'été, donc on va finir dans l'hiver, et on va écouter un extrait de Tonnerre, de Guillaume Braque.
Il a quand même l'air un peu triste, hein, ton chien.
Bah, c'est un mélancolique. Faut dire qu'il a vécu un drame, le pauvre. Il a été abandonné. Quand je l'ai récupéré, il était très agité. Il venait me réveiller toutes les nuits. Il avait tout le temps besoin d'être rassuré. Tu sais qu'il aime la poésie,
hein ?
Ouais ? Ouais, tiens, regarde. Honte à toi, qui la première m'a appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont enseveli dans l'ombre mon printemps et mes beaux jours. C'est ta voix, c'est ton sourire, c'est ton regard corrupteur qui m'ont appris à maudire jusqu'au semblant du bonheur. C'est ta jeunesse et tes charmes qui m'ont fait désespérer. Et si je doute des larmes, c'est que je t'ai vu pleurer. Alfred de Musset, nuit d'octobre. T'as vu, hein ?
Guillaume Braque, on entendait un extrait. Bernard Ménez, c'est le père de Vincent McCain. C'était quoi ce duo ? Parce que quel lien il y a entre l'acteur qui est Bernard Ménez et l'acteur qui est Vincent McCain ?
Il y a un lien très fort. Enfin, je l'ai souvent raconté. Probablement le film qui m'a donné envie moi-même de faire des films, c'était Du côté d'Orouette de Jacques Rosier, avec évidemment Bernard dans le rôle principal. Et en voyant ce film, je m'étais dit, moi, tout ce que j'ai à raconter pour l'instant comme type d'histoire, c'est des histoires de garçons un peu maladroits, un peu solitaires, qui a du mal à séduire des filles. Et tout d'un coup, je vois ce film-là, et avec Bernard dedans, qui en plus me ressemblait de façon assez saisissante. Et je ne savais pas si je devais m'en réjouir ou pas, mais, mais je me souviens que je m'étais dit, mais c'est fou, c'est moi sur l'écran. Et après, des années plus tard, quand j'ai fait ce film Un monde sans femme, film d'été avec Vincent McCain, qui vraiment était dans la ligne, enfin en tout cas, qui était très nourri par Du côté d'Orouette, je me souviens qu'on s'était dit après que ce serait très beau que Bernard joue le père de Vincent dans un autre film, tellement il y avait une sorte de lien de filiation entre eux, entre les films. Voilà. Et en effet, je trouve qu'on y croit très fort à ce lien.
Ah ouais, mais moi j'ai cru que c'était mon frère à un moment.
c'est une évidence.
Et puis en plus, c'est vrai que comme Vincent est un peu mon alter ego et qu'il y avait cette identification très forte entre Bernard et moi, ça, il y avait quelque chose d'assez évident. Par ailleurs, juste une dernière chose, quand je t'ai entendu là, redire le poème de Musset, ça m'a beaucoup ému parce qu'en fait, mon grand-père maternel, dont j'étais extrêmement proche, avait cette même façon de déclamer comme ça des vers, que ce soit de théâtre classique ou de poésie. Voilà, un peu toujours les mêmes. Il y mettait beaucoup d'emphase. Et je trouve que j'ai l'impression de l'entendre quand je t'entends dire ces vers de Musset. Ouais.
Sauf que moi, je pense, l'emphase, c'est une chose, mais je pense que j'avais un professeur de diction qui était formidable, monsieur Raymond Girard, professeur de diction au conservatoire, qui, il faut quand même essayer de rendre les choses compréhensibles par les silences, la façon dont on construit la diction. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on voit pas à la radio, c'est que devant cette lecture du poème, le chien se levait, il était passionné par ce que je lui disais.
Et nous a rendu la vie dure.
Voilà.
Sur le plateau.
Après le chat, le chien.
C'est ouais. Ça, j'y pensais tout à l'heure.
Bernard Ménez, vous ne regrettez pas finalement le Conservatoire National d'Art Dramatique, la Comédie Française ?
Ah bah non, je me suis présenté deux fois. La deuxième fois d'ailleurs, il manquait une voix. Mais mon professeur de diction, donc Raymond Girard, qui était professeur de diction au Conservatoire, m'a dit, tu sais, il était au jury, il m'a dit, tu sais, tu peux te représenter 36 fois. En ce moment, c'est fait pour alimenter la Comédie Française. T'as pas le physique pour ça, la façon de jouer, enfin, tu risques de jamais y rentrer. Jouvais, c'est fait avoir 9 fois comme ça. Il n'a jamais, et lui, il a fini professeur au Conservatoire. Moi, j'ai eu la chance, quelques années plus tard, j'ai été à la Comédie Française, dans des conditions un peu particulières, mais j'ai quand même eu ma petite revanche.
C'était quoi les conditions ?
C'est Jacques Lassalle qui est venu me proposer de faire On purge bébé de Fellow, mettant en scène Jean-Christophe Averti, et ce qui était une expérience formidable, hein, en me prévenant que les sociétaires n'appréciaient pas mon arrivée. Alors je pensais que ça aurait été moins violent que ça, du fait que j'avais plusieurs camarades de cours de théâtre qui étaient aux Français. Je me disais, bon, ils vont peut-être quand même être plus sympas. Et quand j'ai vu le premier accueil très très froid, je me suis dit, monsieur Lassalle a raison, je donne ma démission, je joue, je reste. Parce qu'il fallait, 6 mois hein, avant de repartir. J'étais engagé comme pensionnaire, donc il fallait 6 mois. Donc je donne ma démission avant même de répéter. Je répète, je joue. Et puis, 6 mois après, je m'en vais.
Bernard Ménez, est-ce que vous pilotez encore ?
J'ai encore mon brevet, et il faut que je pilote cette année pour garder mon brevet. Oui, je suis encore pilote en exercice.
Est-ce qu'on peut finir l'émission avec la sensation d'un vol ? Est-ce que vous pouvez nous décrire la sensation que vous avez quand vous volez ?
C'est une sensation de grande liberté. C'est-à-dire que vous décollez, et tout d'un coup, d'abord vous êtes maître à bord, et tout d'un coup vous vous trouvez en l'air, en suspens, entre le ciel et la terre, et vous ne devez rien à personne, mais il y a une forme de concentration qu'il faut quand même garder tout le temps, parce que on est dépendant d'appareils techniques. Mais j'ai l'impression d'avoir vaincu, ensuite d'avoir vaincu sur moi une grande appréhension, parce que je suis quelqu'un qui avait très peur en avion, ma fille a toujours très peur en avion, et le jour où j'ai piloté moi-même, je n'ai pas eu peur, j'ai pas peur quand je pilote moi.
Moi ?
Oui, vous m'avez jamais vu ?
Non, je vous connais pas.
Vous êtes étudiante ?
Ouais.
Ah bon, étudiante en quoi ?
Études générales.
Mais en quoi ? En mathématiques ou littéraire ?
Générale.
Ah, générale. Hein. Et vous étiez pas... C'était pas à Giversac l'année dernière ?
A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento poi...
On sera parti de l'enfant Bernard, fils du facteur Ménez, qui a voulu que toute sa vie dure les grandes vacances, les vacances d'été, qui a joué les hommes en vacances, qui fait sourire quand il apparaît, qui a finalement abandonné les maths, la physique, chimie, pour devenir acteur et croiser la route, entre autres, de Louis de Funès, François Truffaut et Pascal Thomas et Guillaume Braque. Vous pouvez lire l'autobiographie Bernard Ménez et encore Je ne vous dis pas tout aux éditions L'Archipel et l'écouter chanter dans l'album qui réunit ses morceaux Amour, Tendresse et Cocotier. Chapelier Fou a réuni ses trois derniers EP dans un album qui porte le nom Point d'exclamation. Je dis merci à Inès Debrine, Lucie Spindler, merci à Lionel Quentin à la réalisation et à la technique, merci à Delphine Baudet et Amandine Grévoz.